RCF.
Père Philippe Haine, avec vous, nous allons partir dans les premiers siècles du christianisme et nous irons à la rencontre des pères de l'Église. Et l'étude de ces écrits, justement, c'est ce qu'on appelle la patristique, c'est votre spécialité. Et c'est aussi une branche d'études théologiques. Pour résumer, on pourrait dire que c'est la connaissance de la doctrine, des ouvrages et de la biographie des pères de l'Église. Est-ce qu'on peut dire que la patristique, c'est véritablement étudier ce qui anime la pensée des pères de l'Église ?
Oui, bien sûr, mais beaucoup plus que la pensée, je pense que c'est l'enthousiasme existentiel. Vraiment existentiel de ces premiers chrétiens dans les premières générations, pendant les persécutions, pendant les heures les plus sombres ainsi du début de l'histoire de l'Église, au moment où il n'était pas là simplement pour planter la croix n'importe où dans le monde, mais au contraire, on le plantait le poignard dans le dos. Et ce qui était intéressant, c'est de se demander comment des hommes et des femmes, le plus souvent sans instruction, ont pu ainsi pouvoir manifester avec autant d'enthousiasme ainsi à leur propre foi. Et donc je dirais d'abord que les pères de l'Église, c'est d'abord une leçon de vie, d'engagement et vraiment de séduction par le Christ et pour le Christ. Et c'est la raison pour laquelle, quand on lit ces pères de l'Église, il ne faut pas les lire simplement au niveau intellectuel, car ce ne sont pas de véritables théologiens systématiques, mais ce sont surtout des méditations. C'est le fruit de l'oraison, de la prière, dans les larmes et les souffrances, mais aussi dans cette espèce de séduction et d'adoration pour Dieu qu'ils ont pu écrire tous ces ouvrages.
Donc au fond, vous, ce qui vous intéresse, c'est de vous pencher sur leur quête de Dieu, sur leur envie de chercher, sur ce qu'ils ont trouvé peut-être aussi.
C'est tout à fait ce qui est passionnant, c'est de rencontrer la personne humaine, la véritable personne humaine, chacun individuellement, avec la tragédie de sa propre existence, de sa question, de son questionnement personnel, et aussi à l'intérieur de ce milieu hostile au niveau de la société, et parfois difficile même au niveau des communautés chrétiennes.
Oui, parce que les pensées de ces pères, c'est des pensées qui sont originales, elles ne sont pas anhistoriques, elles sont véritablement dans un contexte, c'est ça aussi qui vous intéresse.
C'est ça qui est passionnant, c'est d'étudier tout d'abord le contexte tout à fait social, politique, qui a pu exister à ce moment-là, religieux aussi, parfois les influences qui peuvent exister, mais aussi d'imaginer la révolution que ça peut être ainsi pour ces gens, ces premiers chrétiens, de ne plus aller prier dans le temple païen ni dans la synagogue, mais de prier dans une communauté en partageant le même pain, hommes et femmes ensemble, et ensuite de pouvoir ainsi parler de l'amour, même l'amour, des persécuteurs en souhaitant qu'ils se convertissent et soient sauvés.
Oui, ils sont vraiment ancrés dans leur temps.
En fait. Ah, pour le moins, tout à fait. Et ce qui est passionnant, c'est de se demander, tiens, comment ont-ils fait pour se relever ? Brisés, écrasés, mutilés parfois par les persécutions, ils ont pu s'y retrouver une manière vivante de vivre leur foi. Et ce qui est intéressant, c'est de ne pas appliquer leur solution actuelle, comme maintenant, mais bien au contraire, retrouver cette espèce de génie, de souffle de l'esprit, qui leur a donné ainsi l'intuition de se lever, de trouver, voilà, ici, maintenant, comment on va vivre en communauté, prier ensemble.
Alors, vous parlez de la persécution qui existait en toile de fond, parce que pour être un père de l'Église, il y a des critères. C'est-à-dire qu'il faut appartenir au premier siècle des chrétiens, déjà.
Oui, donc nous sommes un peu exclus de cela, malheureusement, même si on fait un petit...
On ne pourra plus avoir de père de l'Église.
Mais non, d'année en année, on peut essayer de les rejoindre. Non. Donc, la littérature des pères de l'Église s'arrête au 6e siècle, exactement en 610, en général. En 610 avec Grégoire le Grand. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, que ce soit dans la littérature laïque, pourrait-on dire comme dans la littérature chrétienne, une espèce d'essoufflement. Il n'y a plus de créativité ni de composition, sauf que telle que à gauche, à droite.
Vous voulez dire qu'il y avait plus de créativité dans les premiers siècles ? C'était plus énergique, c'est plus animé.
Ce que je dis, c'est simplement que ce soit dans la littérature laïque que dans la littérature chrétienne, à partir du 6e, 7e siècle, on n'a plus de créativité, on n'a même plus d'auteur pratiquement. Et ça, c'est dû entre autres à l'effondrement de tout l'Empire romain, l'effondrement de toute cette société. Il n'y a plus d'école et c'est le repli sur les abbayes. On a à ce moment-là une littérature monastique. Et c'est au XIIIe siècle qu'on a une littérature scolastique des universités. Et donc, on a des périodes qui sont bien sectionnées. Alors, c'est intéressant, comme vous posez la question, de la créativité. Alors, évidemment... Depuis la mort de Jésus-Christ et sa résurrection jusqu'à Grégoire le Grand en 610, on a différentes vagues de créativité.
Musique.
La première génération, ce sont les pères apostoliques. Comment vivre en communauté? Il y a des gens qui disent « Oui, moi je ne veux pas célébrer la messe comme ça. Oui, moi je ne crois pas que Jésus-Christ soit vraiment fils de Dieu, que sais-je encore. »
Ça, comme... ce sont ceux qui ont connu des apôtres.
Et ceux qui ont reçu la foi des apôtres, tout à fait. Tout à fait. Donc Polycarpe, par exemple, a été le disciple de saint Jean. Deuxième période, vers 150-250 à peu près, sont des apologistes. Comment présenter la foi devant les empereurs et surtout les philosophes païens, et comment s'y situer la foi chrétienne par rapport aux juifs. C'est saint Justin, c'est saint Irénée, ainsi de suite. On a un grand génie qui apparaît à ce moment-là, c'est notre ami Origène, ainsi qui sera dans le nord de l'Égypte, à Alexandrie, c'est le grand monument. Puis on a une période d'essoufflement. On peut imaginer que les persécutions chrétiennes ont été tellement sévères que toute l'intelligentsia, toute la classe intellectuelle de la foi de l'Église a pu être décapitée à ce moment-là. Et donc de 250 jusqu'à 300 à peu près, on n'a que des petits auteurs à gauche, à droite, brutalement. Brutalement, quand la foi chrétienne n'est plus persécutée, on a la guerre civile. La guerre civile dans l'ensemble de l'Église, pourquoi ? Il y a des gens qui disent « Oui, mais Jésus c'est un grand prophète, mais ce n'est pas le fils de Dieu, parce que Dieu est Dieu, il est tout seul. Pourquoi voulez-vous mettre un deuxième Dieu là-bas ? Ce n'est pas possible. » Ce sera le concile de Nicée, le concile de Constantinople.
325.
Qui ont donné notre credo actuel, où sera pendant un siècle une véritable guerre civile à l'intérieur des évêques et de l'Église à ce sujet-là. Il n'y a pas de période calme. Par la suite, à cause de Théodose, l'empereur romain, qui a imposé une certaine ligne politique et religieuse, il y aura seulement les grands auteurs, comme saint Augustin, par exemple.
Et là, on est au 4e, 5e siècle.
Saint Augustin meurt en 430, et on considère que c'est la fin de l'apogée de la littérature patristique.
L'âge d'or de la patristique.
Mais moi, je n'aime pas beaucoup cela, parce que chaque période est un âge d'or. Chaque personne est un âge d'or. Chaque personne, sa personnalité, dans la richesse de sa personne, réalise le plan d'amour de Dieu. Donc, il n'y a pas de période plus belle ou n'importe quoi. Il n'y a que des gens admirables, les uns après les autres.
Des gens qui cherchent Dieu, qui cherchent à comprendre Dieu.
Et qui la vivent. Et c'est la raison par laquelle, donc de 430 à 610, on a par exemple différents personnages, dont entre autres donc Grégoire le Grand, qui est nommé pape au moment où la ville de Rome était dévastée par la famine et par la peste, tout simplement.
Et alors ce qu'il faut préciser, c'est que ces pères de l'Église n'ont pas forcément été canonisés. On peut y voir une vie de sainteté, une vie habitée par le Christ, mais ce ne sont pas des saints pour tous.
C'est très bien de faire cette question-là, parce que donc, pour être père de l'Église, normalement, pour être père de l'Église, il faudrait que d'une part, il y ait une sainteté de vie. On comprend pourquoi. Deuxièmement, il faudrait tout de même que ce qu'il raconte soit un peu en conformité avec la doctrine de l'Église.
Ou qu'ils aient un enseignement orthodoxe.
Orthodoxe,
si on peut dire.
Oui, si on veut. Mais à l'inverse, on pourrait dire plutôt que l'enseignement orthodoxe vient des pères de l'Église. Troisièmement, on peut dire aussi que ce sont des gens qui doivent rester à l'intérieur de l'Église. Pourquoi ? Comment peut-on parler de Dieu et détester son frère ou son voisin ? Et par exemple, nous avons Tertullien qui écrit vers 180-220 à peu près à Carthage, dans le nord de l'Afrique, qui a écrit des choses remarquables sur l'incarnation physique charnelle du Christ et sur sa divinité. Mais seulement c'était un homme qui était tellement insupportable qu'il détestait son voisin parce qu'il trouvait qu'il n'était pas assez fanatique dans sa façon de vivre la foi chrétienne. Il s'est séparé de la grande église, a fondé sa propre église et puis... Difficile de considérer comme étant un chrétien. Ce qui est important encore, ça je me signale tout de même, ce qui est important, ce n'est pas des critères de loi pour un père de l'Église, ce qui est le souffle de l'Esprit. Il ne faut pas oublier une chose fondamentale, c'est que Jésus-Christ, après sa résurrection et avant son ascension, a envoyé son souffle de l'Esprit. Et c'est le peuple de Dieu qui, animé par le souffle de l'Esprit, peut arriver à plus ou moins percevoir ce qui correspond véritablement à qui est Dieu ou vers quoi il nous appelle.
Alors, c'est le souffle de l'Esprit labellisé par l'Église, on pourrait dire.
Oui et non. Quelle Église ? En tout cas, parce que quand on voit des gens comme Léon le Grand ou Grégoire le Grand, c'est le peuple de Dieu lui-même, dans la rue, qui ont considéré que c'était des gens tellement remarquables qu'ils les appelaient spontanément le Grand. Il n'a pas fallu avoir un concile ou que sais-je encore des évêques pour pouvoir le faire. Une espèce d'aura. On a connu ça aussi au XXe siècle. Je ne vais pas nommer parce qu'on va prendre Churchill, comme ça on n'aura pas d'ennui politique. Maintenant, comme Churchill est un homme qui avait un poids politique, vraiment une espèce de vision politique, etc., qui incite au respect, il y a des gens comme ça aussi, ça existe.
Est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur quelques questions dont se sont emparés les pères de l'Église ?
Eh bien, le premier écrit que l'on ait après le livre de la Révélation, donc de l'Apocalypse, c'est la lettre de Clément de Rome, l'évêque de Rome, qui écrit ainsi à la communauté de Corinthe. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Eh bien, les chrétiens de Corinthe ont mis leur curé à la porte.
Donc, c'est des questions pastorales.
Ah, la première question, c'est pastoral. Deuxième question qui est posée aussi, c'est par, dans la même communauté de Rome, c'est Hermas qui écrit un livre qui s'appelle Le Passeur. Que se passe-t-il ? Il y a l'histoire d'adultère. Voyez, on a affaire à des questions toutes simples et tout à fait pratiques. Comment vivre ensemble, comment reconnaître l'autorité d'un curé et comment même respecter ainsi la femme de son voisin. Donc c'est ça qui est absolument passionnant, c'est à travers les situations les plus simples comme les plus dramatiques de notre existence qu'un chrétien peut et doit vivre sa foi.
Et vous, vous vous êtes penché sur quel type d'écrit ? Vous parliez des lettres de Saint Clément, sur quel type d'écrit vous vous êtes penché ?
Mais au départ, par paresse, j'ai pris des auteurs qui n'avaient pas écrit trop de choses. Parce qu'étudier le Saint-Augustin, il faudrait 243 ans et 24 jours pour pouvoir lire l'ensemble de l'œuvre. Donc lorsqu'on lit le Clément de Rome et le pasteur d'Hermas, ma foi, on peut faire ça dans une soirée, pendant une journée. Mais c'est des œuvres qui sont sans cesse lues, rééditées, recopiées, rééditées, parce qu'il y a un accent de vérité. Quand on parle de l'être humain et de la foi chrétienne, on dépasse vraiment toutes les conflits de culture, les limites hein, même de situations particulières. On s'est dit, waouh, ça c'est vrai. Et c'est ça qui est beau de pouvoir lire des auteurs qui vous touchent profondément.
Merci frère Philippe Haine, vous êtes religieux, dominicain, vous avez rejoint ici la communauté de Liège et vous êtes spécialisé en patristique. Merci beaucoup.